professionnels de santé et du bien-être, curieux d'innovation, le NutriTalk Gala revient pour une deuxième édition exceptionnelle. Cette année, cap sur la santé mentale, émotionnelle et cognitive, avec la nutraceutique en fil rouge, intervention d'experts visionnaires, conversations inspirantes, découverte d'actifs d'intérêt, un programme riche et captivant. Le NutriTalk Gala, c'est aussi des moments uniques avec des shows surprises pour une journée et une nuit à la fois inspirante, divertissante et festive. Rendez-vous le 12 juin sur la French Riviera au Casino Terre Azur de Cagnes-sur-Mer. Infos et réservations sur nutriradio.fr.
Club Naturo sur Nutri Radio.
Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission Club Naturo sur Nutri Radio chaque lundi entre 11h et midi si vous êtes sur le live et puis en podcast et quand vous voulez. On est ravis d'accueillir pour la première de l'année l'émission Cécile Pétureau, pardon. Bonjour Cécile.
Bonjour Fabrice, bonjour à tous.
Ah, ça fait plaisir de vous entendre. C'est plaisir. Bah oui, mais non, que c'est plus aussi régulier, bon, une fois par mois, c'est déjà mieux que rien. Très, très occupé. On se disait hors antenne qu'on n'avait pas souhaité la bonne année, hein. mais quand même, c'est vrai que aujourd'hui, on ne souhaite plus la bonne année tout le mois de janvier. Déjà, dès le 3, on a l'impression que ça déjà saoule. Ça saoule déjà. Tout va trop vite. Bon, je vous souhaite quand même la bonne année, plein de bonnes choses. D'autant que la thématique de l'émission, vous m'avez dit, mais si Fabrice, on est... c'est important, le 20 janvier, de parler des bonnes résolutions. On va peut-être changer l'angle de l'émission. Et on pourrait se dire, tiens, quelles sont les décisions de santé naturelle que l'on peut mettre en place en ce moment.
C'est ça, c'est maintenant ou jamais.
C'est maintenant ou jamais. Hop, on a retitré, on oublie les bonnes résolutions. Non, c'est oui, de toute façon, il n'y a jamais de. Si jamais on est encore dans des bonnes énergies pour faire des changements qui soient bénéfiques pour notre santé, allons-y maintenant, grâce à vous.
Oui, absolument. Et en plus, je voulais commencer par vous dire que, bon, moi, j'avais choisi ce sujet, mais que je suis parfaitement contre les bonnes résolutions.
Ah, bah, c'est très cohérent. Merci pour ça.
Pour cette franchise.
Oui, merci pour cette franchise.
Parce que je trouve qu'elles sont toujours beaucoup trop ambitieuses, elles sont difficiles à atteindre, et puis effectivement, la plupart d'entre nous va y renoncer dès le mois de février. Ceci étant dit, pour ceux pour lesquels effectivement la nouvelle année c'est l'occasion de modifier son mode de vie, je voulais faire une petite parenthèse sur le fait que c'est possible et c'est une très bonne ambition et qui est très très vertueuse par ailleurs, mais c'est tout à fait possible de le faire sans passer par la case détox de janvier. On en parle, alors peut-être que j'y suis peut-être un peu moins attentive. J'ai l'impression qu'on en entend un peu moins parler, mais bon, c'est quand même un peu toujours en fond sur dans les médias et sur les réseaux sociaux. Et elle a tendance à être présentée, cette détox de janvier, comme quelque chose qui viendrait finalement compenser les agapes de fin d'année. Et donc, je voulais faire quelques petits rappels sur ce point-là. Le premier, c'est que si on se sent aujourd'hui un peu serré dans notre jean ou bien un peu mal à l'aise dans ses fringues, c'est certainement de l'air, parce que la digestion elle a pu être plus compliquée pendant les fêtes. C'est sans doute aussi de l'eau, parce qu'on a mangé plus salé, plus sucré, plus alcoolisé. Donc autant de facteurs qui vont favoriser la rétention d'eau. Et je vous rappelle aussi qu'il est parfaitement impossible de prendre du poids en 8 jours. La prise de masse, c'est un mécanisme qui va nécessiter plusieurs semaines, voire plusieurs mois d'accès. Donc c'est important de garder tout de même ça en tête à mi-janvier. De deux, moi je suis parfaitement d'accord pour, et je le fais très régulièrement en consultation, soutenir les fonctions naturelles de détoxication de l'organisme. Mais ce soutien, il n'a rien à voir avec une restriction qui viendrait compenser un excès, et c'est encore moins la fameuse détox dont effectivement les médias et les réseaux sociaux se sont allègrement emparés. Et enfin, c'est du bon sens, mais je le rappelle tout de même, en janvier il fait froid, on est souvent fatigué parce que il y a une baisse de luminosité dont je vous ai parlé le mois dernier. Les vacances de Noël, elles sont jamais les plus reposantes qui soient. Et puis c'est aussi une période de l'année où ce dont on a surtout envie, ce sont des plats chauds et réconfortants. Et donc c'est aux antipodes d'une détox à base de jus vert. Donc vous l'aurez compris, on ne fait pas de détox en janvier. Ceci étant dit, pour ceux qui effectivement veulent saisir l'occasion de cette nouvelle année pour adopter de nouvelles habitudes de vie, j'ai décidé aujourd'hui de revenir sur quatre principes de base pour prendre soin de sa santé digestive, parce qu'elle est juste essentielle pour préserver son bien-être et sa santé globale. Et donc, ça me paraissait important de commencer cette première émission de l'année par ce sujet qui est effectivement la santé digestive et la manière dont on peut y contribuer et la préserver facilement au quotidien.
Eh bien écoutez, on va en parler dans un tout petit instant. Merci pour cette petite introduction. Donc pour vous, pas de détox évidemment en janvier, alors que beaucoup démarrent l'année aussi par une détox. En commençant d'ailleurs, la symbolique, c'est ce dry January. Vous êtes dedans un petit peu ou pas?
Alors non, parce que globalement, je ne bois pas beaucoup d'alcool. Mais alors, j'ai rien contre le dry January, qui peut être l'occasion de s'apercevoir qu'on consomme peut-être un peu trop d'alcool et surtout de pouvoir mesurer les bénéfices sur son énergie, son sommeil, sa peau, son équilibre hormonal. Donc ça, je suis pas du tout contre. Mais ça me paraît être effectivement beaucoup plus pertinent que une détox à base de jus vert. Vous faites le dry January, Fabrice ?
Figurez-vous que oui, je le fais et c'est plus dur qu'il n'y paraît. Quand vous allez au restaurant avec des amis, tout ça, avant on peut peut-être boire un verre de vin, là c'est niet. Donc c'est pas si simple que ça, même quand on n'a pas une consommation d'alcool élevée. C'est intéressant quand même, du coup je me dis de le faire.
Oui, absolument.
Tiens, ouais, on a. Donc je me suis dit, mais la dernière fois que j'ai passé un mois sans boire de vin, c'était quand? Et là, c'est là où je me suis. Je fais une remise en question sur ma vie. C'est pas très glorieux. Bon, allez, on marque une toute petite pause et on se retrouve dans un instant pour parler de la digestion, les quatre piliers selon Cécile Natureau. Et si vous suivez Cécile Natureau, vous avez déjà une petite idée du premier d'entre eux. C'est juste après ceci, je pense qu'après cette émission, je vais casser mon dry January à cause de vous. C'est juste après ceci.
Club Naturo sur Nutri Radio.
Allez, avec vous aujourd'hui, Cécile Natureau pour le Club Natureau, pour vous parler de ces décisions peut-être que vous allez pouvoir, que vous aviez dit, tiens, on va démarrer cette année en faisant une petite détox. Elle vous a dit non, pas de détox en début d'année. Par contre, attention, la digestion, on y prête attention particulièrement et elle repose sur quatre piliers selon Cécile Natureau. Le premier étant... Je vous laisse le dire.
Cool. Hein. Merci pour me laisser ce privilège.
Ah bah oui, je vous laisse vos émissions quand même.
Merci. Donc oui, Fabrice, je sais que ça vous fait râler, mais je m'en fiche parce que je le répète à longueur d'émission et de rendez-vous d'ailleurs, et qu'il est absolument indispensable et que beaucoup d'entre nous n'y sont pas suffisamment attentifs. C'est la base de la base sans laquelle on ne peut pas espérer bien digérer, bien mastiquer. Alors, prendre le temps de bien mâcher, c'est essentiel pour de multiples raisons. Je vais me contenter de vous parler de deux d'entre elles. La première, c'est que, suffisamment mâcher, c'est vraiment la condition sine qua non, non seulement du mode digestion. Et je vous rappelle que la digestion, elle commence dans la bouche, que la mastication, c'est d'ailleurs la seule étape de la digestion sous votre contrôle. Et puis, c'est aussi la garantie d'une bonne assimilation des nutriments. Ça veut dire que ça ne sert à rien que vous apportiez à votre organisme tous les nutriments dont il a besoin, que vous preniez régulièrement des compléments alimentaires aussi qualitatifs soient-ils, si vous ne prenez pas le temps de bien mâcher. Gardez en tête que une mastication insuffisante, c'est vraiment le premier facteur de mauvaise digestion et donc le premier facteur d'inflammation intestinale. On en parle beaucoup d'inflammation intestinale en santé intégrative, en naturopathie. Et donc vraiment la première chose du quotidien que vous pouvez mettre en place pour vous en préserver, c'est effectivement d'être attentif à votre mastication. N'oubliez pas non plus que la digestion, c'est une réaction en chaîne qui va suivre la fameuse loi du maillon faible. C'est-à-dire que lorsque un maillon ne va pas faire correctement son travail, c'est toute la chaîne qui est empâtée.
Il faut manger du pâté, évidemment. Ça, c'est très clair. Le message est clair.
Absolument. C'est toute la chaîne qui est impactée. Et donc, en fait, l'organisme, il ne pourra pas compenser le manque de mastication. J'aime bien donner une image en consultation qui n'est pas de moi d'ailleurs. Mais pour illustrer l'action de la mastication, ça consiste à comparer un bloc de glace qui va fondre très lentement avec de la glace pilée, qui elle va fondre beaucoup plus rapidement. Et en fait, de la même façon, en déstructurant les aliments en morceaux plus petits, en fait, la mastication, elle permet qu'ils soient beaucoup plus accessibles aux enzymes digestives dans la bouche et dans le reste du tube digestif. Donc ça va vraiment faciliter la digestion. La seconde raison pour laquelle la mastication elle est aussi si importante, c'est qu'elle participe à la régulation de votre appétit. Donc, pour faire simple, quand on a quelque chose en bouche, la mastication va envoyer un premier signal de satiété à notre cerveau, qui va le recevoir et l'interpréter une vingtaine de minutes seulement après les premières bouchées. Donc, si on gobe notre repas en moins de 20 minutes, il y a fort à parier que la sensation de faim, elle revienne très rapidement et qu'elle nous pousse à grignoter. Grignotage qui va entretenir les troubles digestifs. Et la boucle est bouclée. Donc, en pratique, quand effectivement je recommande vivement de prendre le temps de bien mâcher, ça signifie tout simplement que ce que vous avalez doit être réduit à l'état de bouillie. Je sais que ça peut sembler très ambitieux et personne n'y arrive jamais systématiquement, mais il y a quand même 2-3 astuces de bon sens pour y parvenir le plus souvent possible et souvent et surtout facilement. La première astuce, c'est de ralentir le rythme quelques minutes avant de manger. C'est du bon sens, mais si effectivement on est dans le speed, on est sûr de faire passer la mastication à l'as. On évite les écrans, on le sait aussi, mais ils nous distraient, ils nous font manger plus vite. Et enfin, on pose nos couverts entre chaque bouchée et on termine la bouchée qu'on a dans la bouche avant de les reprendre. C'est hyper, hyper basique, mais c'est vraiment ces ajustements du quotidien qui permettront d'être plus attentifs à sa mastication et l'importance qu'elle revêt dans la santé intestinale. C'est bon pour mon premier point, Fabrice.
Ben c'est parfait, moi je n'ai rien à rajouter, c'est parfait. Vous maîtrisez, vous pouvez dérouler le deuxième qui est aussi un point que l'on connaît.
Absolument.
Que vous abordez moins souvent celui-ci, l'hydratation.
C'est vrai, absolument. S'hydrater suffisamment et correctement. Alors on ne peut pas parler de digestion si on ne parle pas d'hydratation. Pour deux raisons, la première c'est que l'hydratation elle va participer à la digestion de manière directe. Parce qu'elle permet notamment dans la bouche la production de salive, salive qui va être riche en enzymes digestives. Ces enzymes digestives, elles agissent comme des ciseaux, et en l'occurrence dans la bouche, des ciseaux sur les glucides. Et ensuite, l'hydratation, elle entre aussi dans la composition du mucus. On en entend moins parler, mais j'en parle beaucoup en consultation. Le mucus, c'est cette espèce de liquide épais et visqueux qui va tapisser, lubrifier, protéger notre tube digestif. Et enfin, l'hydratation suffisante, elle est aussi essentielle et indispensable à un transit régulier, on l'a tous remarqué. Donc en pratique, quand on dit boire suffisamment, c'est à minima atteindre le litre et demi d'eau par jour. Vous le savez, idéalement avant même d'avoir soif, la soif c'est déjà le premier signe de la déshydratation. Pour les atteindre, et ça pour le coup je le recommande systématiquement, l'idée c'est de prendre le réflexe de boire un verre d'eau à jeun, au lever, avant chaque repas et après chaque mixtion. De cette manière-là, on peut facilement obtenir un objectif finalement à 7-9 verres par jour, sans trop s'en apercevoir et en apportant cette hydratation tout au long de la journée.
Après chaque mixtion, vous avez dit ?
Ouais, absolument.
Après avoir être allé faire pipi, c'est ça ?
C'est ça, absolument. Moi, en fait,
je traduis.
Oui, absolument. C'est pas qu'il y a un besoin essentiel, c'est simplement que ça permet d'avoir ce reminder en tête et effectivement de synchroniser cette
reminder
prise.
Reminder en tête, non mais
ah,
là,
oui.
Si elle est partie 2025 à Reminder Los Angeles.
C'est tellement facile, Fabrice. Je continue. On privilégie l'eau plate plutôt à l'eau gazeuse parce que, alors, rien ne nous empêche de boire de l'eau gazeuse, mais si effectivement il y a des troubles digestifs, bien que l'eau gazeuse elle soit tout aussi hydratante, le côté pétillant, il a tendance tout de même à nous faire croire qu'on a bu plus d'eau qu'on en a bu en réalité. Et en plus, l'eau gazeuse, elle est clairement à éviter en cas de ballonnement. Donc, c'est à garder en tête. Et enfin, on n'oublie pas que le thé et le café, ils n'entrent pas dans ce fameux litre et demi. C'est des boissons qu'on appelle diurétiques, c'est-à-dire qu'elles vont avoir tendance à nous faire éliminer plus d'eau qu'elles ne vont nous en apporter. Donc, on peut en consommer, mais effectivement, on les comptabilise pas dans le litre et demi à atteindre au quotidien. Et enfin, petite parenthèse, effectivement, concernant les gens qui d'ores et déjà sont sujets aux troubles digestifs, quand on dit boire correctement, c'est plutôt boire en dehors des repas pour éviter de diluer les enzymes digestives qui travaillent à la digestion. Donc ça, c'est tout simple. En fait, plus les enzymes digestives elles fonctionnent correctement et plus leur action sur le bol alimentaire et donc sur les aliments il va être efficace. Donc, on préfère un grand verre d'eau 15 repas pour passer à table, déjà bien hydraté finalement et éviter d'avoir besoin de boire pendant les repas. Mais c'est toujours toute une question, tout est une question de mesure et de bon sens. Il n'y a pas d'interdiction absolue à boire au cours des repas. Si on boit deux gorgées, il n'y a rien qui va se passer. En revanche, on évite effectivement de s'enfiler 50 centilitres d'eau au moment des repas. Voilà.
Bien, on va marquer une dernière pause. Cécile, merci pour ces conseils. Et d'ailleurs, peut-être aussi chasser une idée reçue, en tout cas que certains ont, l'eau pétillante faciliterait la digestion, par exemple, alors que pas du tout.
Alors, oui et non. En fait, alors elle va vraiment largement augmenter la sensation de ballonnement. En revanche, elle va permettre de faire passer les lourdeurs digestives. Donc, effectivement, après des repas très roboratifs, on peut avoir cette envie de boire de l'eau pétillante. Donc, c'est pas une fin en soi, mais effectivement, momentanément, ça peut effectivement faciliter un peu la digestion. Mais encore une fois, bon, c'est un leurre. L'idée, c'est de travailler sur le fond.
Bien, merci beaucoup en tout cas pour ces précisions. Cécile, dernière petite pause et on se retrouve pour les deux derniers piliers de cette digestion, sur Nutri Radio.
Club Naturo sur Nutri Radio.
Sur Nutri Radio ou comme dirait Cécile Pizzuro sur Nutri Radio parce qu'elle le vaut bien. On parle aujourd'hui de ces décisions que vous pouvez mettre en place et en particulier en ce début d'année bien évidemment. On a vu pas de détox et à quel point la digestion est importante avec la mastication pour commencer, bien s'hydrater en second et... Avant d'aborder les deux derniers points, on peut se dire oui, c'est évident, mais vous-même qui êtes naturopathe, vous dites mais en fait, je passe mon temps à répéter ça à des gens, même s'ils le savent, ils ne l'appliquent pas, c'est vrai?
Absolument, absolument. Et je sais que ça paraît hyper, hyper basique, mais c'est vraiment ces ajustements du quotidien qui font, qui nous permettent de préserver notre santé. Et en l'occurrence, des personnes qui ont des troubles digestifs, j'en vois beaucoup tous les jours, et c'est un motif de consultation en naturo qui est très fréquent. Et on ne peut pas atteindre des résultats pérennes si effectivement ces basiques-là, ils ne sont pas acquis. Ça ne veut pas dire qu'on fera tout parfaitement tout le temps, parce que ce n'est pas possible, mais ça veut dire que c'est vraiment important d'en avoir conscience et du coup, de spontanément revenir dessus être attentif à ces petits basiques du quotidien.
Je vous rejoins totalement. Répétition, répétition, répétition. Et un jour, on a le déclic et après, ça devient une habitude et puis on est sorti d'affaire. Donc, il reste deux piliers, dont le stress.
Absolument. L'idée, c'est de faire son max pour ne pas manger le stress au ventre. Alors, l'influence du stress sur notre digestion, elle est très simple et puis elle s'explique par un mécanisme qui est assez archaïque. En fait, en état de stress, toutes les fonctions de l'organisme qui ne sont pas nécessaires à la fuite ou au combat, elles sont inhibées. Notre digestion, elle est utile ni à l'une ni à l'autre, donc ni à la fuite ni au combat. Donc naturellement, elle est hyper impactée par les états de stress. Grosso modo, le péristaltisme intestinal, il va être ralenti. Vous savez, le péristaltisme intestinal, c'est ce mouvement de contraction, décontraction des muscles qui entourent notre tube digestif et qui font progresser les aliments. La production des sucs digestifs, donc les enzymes digestives, l'acide chlorhydrique et même la salive va être impactée aussi et diminuée considérablement. Et en plus, sous l'effet du stress, on l'a tous remarqué, on mastique moins. Donc, on se retrouve avec des ballonnements, des maux de ventre, des lourdeurs, des remontées acides, voire des brûlures d'estomac. Finalement, quoi qu'on ait mangé, le problème n'est pas dans la composition de l'assiette, il est dans la manière, dans le contexte dans lequel effectivement on a pris notre repas. Donc, en pratique, ne pas manger le stress au ventre, ça signifie finalement deux choses. Ça signifie, sans nécessairement manger en pleine conscience, ce que je trouve très ambitieux dans la vraie vie, de manger dans un environnement qui soit le plus apaisé possible, sans parasites. Ça veut dire que c'est pas sur un coin de bureau devant son écran, entre deux réunions, on sait que c'est mal. Et puis ça signifie aussi tout simplement qu'on ralentisse le rythme quelques minutes avant de manger pour calmer son système nerveux et activer sa fameuse branche parasympathique, la pédale frein de l'organisme, le mode détente sur lequel on doit être pour bien digérer. Donc ça peut passer par quelques minutes de marche, la lecture, un podcast, quelques respirations amples par le ventre, voire si on est particulièrement sujet au stress, quelques minutes de cohérence cardiaque avant les repas. Ça tient à pas grand-chose, mais ça fait une réelle différence. Et ça me permet de faire, on en parlait effectivement, une parenthèse sur les troubles digestifs. En fait, très souvent, la première question qu'on va se poser, c'est qu'est-ce que dans mon alimentation, qu'est-ce qui ne me convient pas et qui est à l'origine effectivement de ces troubles digestifs et qu'est-ce que je dois enlever. En fait, c'est pas la bonne question. La première chose à se poser, c'est est-ce que je suis attentif à ma mastication, à mon hydratation, à la gestion de mon stress, et enfin, on va le voir, au mouvement. C'est vraiment les premières choses à garder en tête avant même de modifier le contenu de son assiette. Voilà.
Très bien, ça c'est bon, c'est clair.
Et donc, le dernier principe de base, et ça je sais que j'en parle beaucoup aussi, c'est marcher. Alors, marcher suffisamment, c'est la garantie d'une meilleure digestion et d'un meilleur transit. Pour une raison qui est toute simple, en contractant nos abdominaux, la marche et puis globalement l'activité physique de manière plus générale, elle va permettre un massage de nos intestins et elle va stimuler le péristaltisme intestinal. Donc en pratique, je vous invite à marcher 30 minutes par jour. Je me répète, pas nécessairement d'affilée, mais à un rythme plutôt soutenu, c'est-à-dire à la limite de la transpiration. Et puis, c'est toujours pareil, mais dès qu'on a la possibilité, on essaie de s'offrir le luxe d'une marche digestive après le déjeuner, 5-10 minutes, il n'y a pas besoin de plus. Ça va favoriser notre digestion, ça va nous permettre d'éviter le fameux coup de barre après le repas qui peut résulter entre autres d'une digestion difficile. Et puis ça va aussi réduire nos niveaux de stress qui, vous l'avez compris, influence sur la qualité de la digestion, que ce soit au moment de passer à table ou juste après, naturellement. Donc finalement, c'est du 3 en 1. Donc ce serait vraiment dommage de s'en passer. Si je conclue sur cette émission et ce topo sur la santé digestive, si effectivement vous faites partie de ceux qui tiennent leur résolution et que vous souhaitez préserver votre santé et votre bien-être, on commence tout simplement par s'intéresser à sa santé digestive. Donc bien mastiquer, boire suffisamment et correctement, se prémunir du stress dans la mesure du possible. Il est temps que cette émission se termine. Se prémunir du stress à proximité des repas.
Horriblement, quand même.
Et marcher davantage.
Du coup, c'était moins de 18 ans l'émission, alors que laissez-moi sur les plateformes. Ne me faites pas différencier sur les plateformes. Mais bon, voilà. Merci, en tout cas. Merci. Et vous avez rappelé aussi, pour le stress, marcher, il ne faut pas manger en marchant. Il y a beaucoup de gens que je vois dans la rue. Des fois, ils ont un petit sandwich, ils marchent, c'est pas bon, on est d'accord. Hein.
Ah bah non, parce qu'en fait, si effectivement on marche, et surtout si on marche en mangeant, c'est qu'on est un peu pressé, on a activé le système nerveux sympathique, donc le mode action, hypervigilance de l'organisme, alors qu'effectivement, pour digérer, il faut qu'on soit sur le parasympathique, le mode frein, le mode détente. Donc, c'est loin d'être l'idéal, effectivement.
Voilà, merci beaucoup. Vous voyez comment je vous ai sauvé là. Hein,
j'aurais pu merci Fabrice.
Hein, mais ouais, je suis comme ça. Que voulez-vous ? Merci beaucoup, Cécile. On va se retrouver le mois prochain. Et puis vous essayerez de nous en dire un peu plus donc sur votre vie privée. Vous avez commencé à en parler en fin d'émission. C'est pas le lieu. On fera peut-être une émission là-dessus. On verra. Bon, allez, émission à retrouver en podcast dans la foulée. On vous la met tout de suite sur Nutri Radio. Comme ça, vous pouvez l'écouter sans les interruptions musicales si ça vous dit. Merci Cécile. Au mois prochain.
À très bientôt. Merci Fabrice.
Allez, c'est le retour de la musique tout de suite sur Nutri Radio.
Club Naturo sur Nutri Radio.